Du cannabis ? Mais Fred, qu'est-ce que tu fais ? C'est totalement interdit !
Ce cannabis qui, paraît-il, en tous les cas c'est prouvé, altère la mémoire. Ça a été maintes fois démontré en fait.
Quand il fume seul, Rachid passe rapidement de 1 ou 2 joints à 10, 20 par jour.
Alors que le débat en France sur la légalisation du cannabis patine, les deux camps s'envoient régulièrement au visage des études contradictoires sur l'effet du cannabis sur la santé. Le cannabis serait plus toxique que l'alcool, susceptible de rendre les adolescents schizophrènes ou au contraire totalement non cancérigène et bénéfique même pour la tension artérielle et l'appétit. Qui croire et que dit exactement la littérature scientifique à propos des périls et des bienfaits de la consommation de cette plante à usage récréatif ? Bonjour Marie-Geoffrey Roustide.
Bonjour.
Vous êtes sociologue en charge pour l'INSERM d'un programme de recherche sur la gestion du risque dans le champ des addictions et membre d'un comité d'experts sur le cannabis thérapeutique. Alors, le cannabis est-il dangereux pour la santé ?
Ce qu'on peut dire sur le cannabis, c'est tout d'abord que la majorité des consommateurs de cannabis ont des usages régulés de cannabis qui n'entraînent pas de conséquences graves pour leur santé. Donc on a la moitié des Français qui ont déjà expérimenté le cannabis et qui n'ont pas eu de problème particulier suite à cette consommation. En revanche, il est clair qu'il existe un certain nombre de risques qui sont des risques sanitaires, des risques socio-relationnels et également des risques, on va dire, liés à la prohibition en France. Et donc ça, c'est des risques qu'il ne faut pas négliger. Alors, les risques sanitaires, pour commencer avec ces risques qui sont les plus importants, ils sont accentués chez les jeunes. En particulier, quand la consommation a lieu à un âge précoce, c'est généralement avant 17 ans. Mais pour certaines pathologies, ça va être avant l'âge de 15 ans. Si on va même plus loin, il y a une expertise INSERM qui est sortie il y a quelques années et qui a mis en évidence que les risques liés à la consommation de cannabis étaient particulièrement importants si on consommait avant 25 ans.
On lit beaucoup, notamment qu'il y aurait un lien entre la consommation de cannabis et l'apparition de schizophrénie. Est-ce que ce lien, il est attesté ? De quoi parle-t-on exactement, Marie-Geoffrey Roustide ?
Alors ça, c'est un lien qui donne lieu justement à une controverse importante au niveau international. Ce qui est prouvé, et ce qui est sûr, ce qui a été montré dans la littérature internationale à partir de différentes études, c'est le fait que chez les personnes vulnérables qui allaient développer un jour un trouble schizophrénique, la consommation de cannabis va en avancer la survenue de quelques années. Donc ça, c'est prouvé dans la littérature. Le débat y porte, en revanche, la controverse sur le fait que c'est le cannabis lui-même qui induirait chez des personnes qui n'avaient pas de vulnérabilité particulière à développer une schizophrénie, que le fait de consommer du cannabis induirait une schizophrénie. En 2018, une équipe canadienne, donc de Patricia Conrod, qui est une des meilleures spécialistes sur le sujet, a mis en évidence, à partir d'une étude menée sur plusieurs milliers d'adolescents, que la survenue des troubles schizophréniques était postérieure à la consommation de cannabis. Et l'équipe de Patricia Conrod a affirmé qu'il y avait un lien de causalité entre survenue de la schizophrénie et consommation de cannabis. Mais malgré cette étude récente, au Canada, il y a eu des controverses extrêmement importantes, d'autant plus que cette étude a été publiée au moment où le Canada aller prendre la décision de légaliser le cannabis. Et ce qu'on peut dire, c'est que sur la question du cannabis, vous l'avez dit en introduction, c'est vraiment un débat très idéologique qui donne souvent lieu à des caricatures. Et donc, vous avez les fervents partisans du cannabis qui vont montrer qu'il n'y a aucun risque et des scientifiques qui peuvent également être influencés par leur propre subjectivité, leur propre peur et qui, à l'inverse, vont vraiment mettre l'accent uniquement sur les risques.
Peut-être faut-il aussi parler de la dose, c'est la dose qui fait le poison, comme le veut la vieille expression de Paracels. De quelle dose parle-t-on pour qu'il y ait une toxicité psychiatrique ou en tout cas des conséquences psychiatriques avérées ?
Dans un pays comme la France, par exemple, marqué par la prohibition, quand vous achetez du cannabis, vous ne connaissez pas la dose, la teneur en THC du produit. Les facteurs qui vont être aggravants sont la teneur en THC, la régularité et l'intensité de la consommation, et également la variabilité individuelle. Nous n'avons pas tous la même vulnérabilité, tant génétique qu'environnementale. Et donc, on sait, par exemple, dans les études, que des personnes, par exemple, qui ont des expériences de vie particulièrement traumatisantes, peuvent être amenées à développer plus facilement des troubles psychiatriques suite à une consommation de cannabis. Mais ça, on l'observe avec tous les types de produits.
Est-ce que ces troubles apparaissent suite à des consommations élevées ou est-ce que le premier joint est dangereux, comme on peut entendre dire que le premier verre d'alcool est dangereux ?
Vous avez des effets aigus qui apparaissent, eux, au moment de la consommation, c'est-à-dire des hallucinations, un sentiment de paranoïa, de persécution, des troubles anxieux, des attaques de panique, qui peuvent arriver chez certains individus sans qu'on puisse le prédire dès la première consommation. Mais généralement, ces troubles, ils sont réversibles quelques heures après la consommation. En revanche, ce qui est prouvé, c'est que quand vous consommez à un âge précoce, c'est-à-dire avant 15 ans ou avant 17 ans, les effets à long terme, en particulier sur les troubles cognitifs, vont perdurer. Alors, ces troubles cognitifs...
Quels sont-ils? Voilà,
c'est important d'en parler, parce qu'on parle beaucoup de la question de la schizophrénie, et là, il y a effectivement une controverse. Ce qui est démontré dans la littérature, c'est que la consommation de cannabis va avoir des effets à long terme quand la première consommation est précoce sur les troubles de l'apprentissage, induire des troubles de la mémoire également, et des troubles dans la prise de décision. Et cette question de la prise de décision, c'est très important, parce que là, on a parlé des risques sanitaires, mais il y a également des risques sociaux plus généraux. Et un des risques principaux avec la consommation de cannabis, c'est la conduite sous l'emprise du cannabis.
J'aimerais vous poser également, Marie-Geoffrey Rousty, de la question de la prévalence, parce que quand on dit qu'il peut y avoir des liens, ou en tout cas effectivement une sorte d'anticipation des crises de schizophrénie ou même des troubles cognitifs, quelle est la prévalence de ces troubles par rapport à une consommation régulière? Est-ce que ça arrive beaucoup? Est-ce que c'est un cas sur 1000, un cas sur 100 000, un cas sur 2 millions? J'aimerais avoir un peu un ordre de grandeur.
Alors là, c'est des événements qui sont très rares et qui varient selon les études et qui varient selon les populations étudiées. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que chez les personnes qui présentent des troubles psychiatriques, la consommation de cannabis est beaucoup plus élevée qu'en comparaison à la population générale. Par exemple, des études récentes ont mis en évidence que 30% des personnes présentant des troubles psychiatriques consommer du cannabis. Donc vous voyez, ce qui est difficile dans ce débat, c'est que la relation, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont des troubles psychiatriques qui vont consommer du cannabis pour ses vertus, parce qu'on parle beaucoup des risques, mais il y a également des vertus, et donc qui vont utiliser le cannabis pour s'apaiser, pour ressentir moins de troubles anxieux.
Peut-on dire un mot également de ce que nous dit la littérature scientifique à propos de la cancérogénicité du cannabis?
Quand vous mélangez du cannabis et du tabac, vous vous exposez à un risque pulmonaire et à un cancer du poumon en lien avec la consommation de tabac.
La consommation de cannabis peut-elle avoir des effets bénéfiques pour la santé?
Le cannabis peut limiter les douleurs, par exemple, dans le cadre de cancer ou dans le cadre des soins palliatifs. C'est une substance qui peut également augmenter l'appétit et qui peut avoir des effets dans des troubles, par exemple, de rigidité dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc, c'est la raison pour laquelle l'ANSM a défini...
L'Agence nationale de santé du médicament.
Voilà, l'Agence de sécurité du médicament a défini un cadre très strict des pathologies pour lesquelles le cannabis allait être proposé dans un cadre médical. Et sur la question des douleurs, par exemple, ce qui a été défini, c'est utiliser le cannabis quand les autres thérapeutiques ont donné lieu à un échec. Parce que vous avez des milliers de patients en France qui consomment du cannabis en allant le chercher actuellement, en allant l'acheter dans un circuit illégal, qui ont vu leur vie véritablement changer et leur qualité de vie s'améliorer en consommant du cannabis de mauvaise qualité acheté sur le marché illégal. Donc c'est pour tous ces patients et ceux qui n'en bénéficient pas encore que cette expérimentation a été mise en place. Ce qui va être mis en place également dans l'expérimentation, c'est un registre qui va permettre de suivre très précisément les effets indésirables qui pourraient subvenir en cas de prescription de cannabis médical.
Merci beaucoup Marie-Geoffrey Rousty. Je rappelle que vous êtes sociologue en charge pour l'INSERM d'un programme de recherche sur la gestion du risque dans le champ des addictions et membre d'un comité d'experts sur le cannabis thérapeutique.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.